France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT's in the house.
Radio Rosana Piperis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Robière.
Firstly, can you explain what Neuralink is and what the goal of it is?
We put a chip in your brain to control your mind. Yeah.
Okay.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Neuralink? On implante une puce dans votre cerveau pour contrôler votre esprit. Vous avez sans doute reconnu la voix d'Elon Musk, le tout-puissant patron de Neuralink, donc SpaceX, X et Tesla. Il symbolise à lui seul un futur digne de la science-fiction. Alors, à quoi va ressembler 2025 entre le changement climatique, les progrès de l'intelligence artificielle, la montée des radicalités? On a parfois l'impression d'être dans un roman d'anticipation effrayant. J'ai relevé quelques exemples dans les infos de ces derniers jours. Les talibans qui veulent construire des habitations sans fenêtres pour que l'on ne puisse plus y entrevoir les femmes. OpenAI qui vient de sortir une version de son modèle capable, paraît-il, de raisonner. Des chiens robots qui remplacent l'homme pour faire rentrer les volailles le soir dans les hangars. Sans compter Starlink, Mayotte va se reconnecter au monde via les antennes d'Elon Musk. Le monde navigue entre utopie et dystopie. Alors on a voulu comprendre dans quelle mesure le futur se conjugue au présent et si la réalité est en train de dépasser la science-fiction. Bonsoir Ariel Kirou.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur de philo-fiction, des imaginaires alternatifs pour la planète. C'est paru chez MF cette année. On va commencer par définir le sujet, parce que je crois que c'est assez important. Qu'est-ce qu'une utopie et qu'est-ce qu'une dystopie?
Alors une utopie, c'est utopie, hein, donc en grec c'est les deux mots. U c'est nulle part. Mais ça peut être aussi utopie, c'est à la fois nulle part et meilleur, bon. Donc utopie, c'est un lieu de nulle part, c'est aussi le lieu du meilleur. Mm-hmm. Donc on tend vers le lieu du meilleur, c'est l'utopie. Et la dystopie, c'est l'utopie négative, c'est l'envers en quelque sorte, hein, la sœur noire de l'utopie. Si l'utopie se passe mal et que les gens croyaient être arrivés, eh bien on arrive à 1984 de George Orwell et on est totalement démunis.
Ben justement, alors on commence par cette dystopie. On a grandi, c'est vrai comme vous le disiez, avec comme référence George Orwell, son Big Brother, 1984, et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Dans quelle mesure notre monde aujourd'hui ressemble à celui que ces deux auteurs décrivaient?
Alors, l'utopie comme la dystopie sont des archétypes, hein, c'est-à-dire c'est des idéaux qui n'existent pas. Donc on ne vit pas au sens propre dans la dystopie ou dans l'utopie. En revanche, on a de plus en plus fortement le sentiment de vivre une dystopie. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment-là?
C'est vrai que c'est un mot qui est devenu à la mode, mais on ne sait pas toujours forcément bien l'utiliser. Hein.
Exactement.
Il est assez galvaudé quand même.
Mais je crois que surtout si on a en tête 1984 de George Orwell, ça devient assez clair. C'est quoi le caractère principal donc, de ce roman, pour celui qui le lit, et potentiellement le citoyen qui est à la place de Winston Smith? C'est qu'on est démuni. C'est qu'on ne sait pas quoi faire. On n'a plus entre les mains son devenir. Là, c'est pour des raisons politiques. C'est une société de contrôle absolu, une société totalitaire. Il y a soi-disant une guerre. En gros, le citoyen, en tant que citoyen, n'existe plus. Alors, si on réfléchit un tout petit peu...
Le citoyen n'existe plus ou l'individu n'existe plus?
Le citoyen, parce que l'individu, ça peut être même l'individu, mais tout dépend de ce qu'on met derrière. Je dirais que la personne n'existe plus. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne considère plus les gens comme étant des humains capables de réfléchir, de penser, de délibérer. Bon. Mais lorsqu'on parle de cette logique d'être démuni, là, il y a un point qui est intéressant, c'est que si on élargit aux logiques climatiques. Lorsque le cyclone Chido arrive à Mayotte, lorsque à Valence il y a des inondations, les citoyens sont aussi démunis. Ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus rien faire pour prendre en main leur devenir. Mmh. Ça veut dire que voilà, que ce soit le rapport à la vérité avec les deepfakes...
Ah bah ça, on va y venir.
Voilà, que ce soit cette crise climatique ou que ce soit évidemment cette logique politique qui nous semble totalement extérieure, on a le sentiment de ne rien pouvoir faire, de ne plus pouvoir agir, on n'a plus de puissance d'agir, et donc on se dit, on vit une dystopie, et on se le dit parce qu'on a en tête des images de dystopie, on a en tête des films, on a en tête peut-être des romans qu'on a pu lire, et que, comme ce qui arrive nous donne le sentiment de dépasser notre quotidien, de dépasser ce qu'on anticipait nous-mêmes, on se dit, on est dans un roman de science-fiction.
La dystopie, vous le disiez, elle est souvent politique. Or, on voit déjà des dérives autoritaires attisées par les réseaux sociaux, la désinformation, les algorithmes aussi, qui ne nous proposent que des points de vue qui rejoignent les nôtres.
Ça s'appelle les bulles de filtre. Et ça, alors il y a un grand auteur qui a beaucoup traité de dystopie, qui est Philip K. Dick, le film Blade Runner,
oui.
tout comme le film Total Recall ou Minority Report.
Là, on était devenus des androïdes dans Blade
Voilà,
Runner.
Exactement. Mais il se trouve que cet auteur a beaucoup travaillé sur la notion de réalité. Et pour lui, ce qui pouvait nous advenir de pire, c'est de vivre dans la réalité de quelqu'un d'autre sans même nous en rendre compte.
C'est-à-dire
C'est-à-dire tout simplement de se dire, ben voilà, je suis dans l'esprit de Mark Zuckerberg, je suis dans l'esprit d'Elon Musk, c'est lui qui façonne mon monde, je ne m'en rends même pas compte, j'ai le sentiment de vivre une sorte de bonheur numérique, et en réalité, je ne suis plus qu'une marionnette, ou je suis en tout cas totalement manipulé sans même m'en rendre compte. Donc cette idée-là, cette idée du simulacre, hein, il a beaucoup traité au fait de l'idée qu'on aurait des présidents qui seraient totalement artificiels, qui seraient des sortes de mécaniques conformistes. Il a mis en scène par exemple aussi un personnage qui s'appelle l'info-clown, une sorte de futur président, une sorte de clown de divertissement. On a l'impression que c'est Donald Trump, quoi, ça devient c'est assez fou. On a l'impression des deepfakes, de cette absence de rapport à la vérité qu'on retrouve dans les mots et les propos de Donald Trump et d'Elon Musk.
Absolument. Est-ce qu'on n'a pas changé de monde au moment où Donald Trump a parlé de faits alternatifs? C'était juste après son investiture en 2017. On ne dit plus mensonge. Est-ce que ça, c'est une perte de valeur fondamentale, finalement?
En tout cas, c'est un signe fort. C'est le signe fort que ce qui fait monde commun, ce qui fait réalité partagée, ce qui est au fond la vérité commune, qui fait société entre nous, ne tient plus. Voilà. Ne tient plus, puisque un homme est capable de dire « la vérité, c'est ce que je dis ». C'est pas ce qui est démontré, c'est pas ce qu'on va trouver après une enquête.
Il est cru parce que cette vérité-là, grâce aux réseaux sociaux, elle se reproduit, si j'ose dire.
Elle est performative.
Oui,
et donc, on se retrouve, moi qui suis un passionné de cet auteur, donc Philip K. Dick, j'ai bien souvent le sentiment qu'on est réellement dans ce que racontaient ces fables. Quoi. On vit dans un monde qui est celui, au fond, parfois, de Donald Trump. Et puis, on pourrait, alors évidemment que c'est des métaphores, parce que concrètement, on y est pas.
Dans les faits alternatifs, on y est quand même déjà.
Oui, on y est au sens où le rapport à la vérité n'est plus le même.
Et il est cru, Donald Trump.
Il est cru en grande partie. Alors on peut s'interroger, on peut se dire, mais est-ce qu'au fond, finalement, c'est pas parce que la vérité en tant que telle n'existe pas, que c'est une tension et qu'on a cru y être arrivé ou pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de se poser la question de ce qui est juste ou de ce qui n'est pas juste?
Là, c'est le philosophe en vous qui parle.
Oui, tout à fait. mais en tout cas, il y a quelque chose qui est tout à fait clair. C'est que ces faits alternatifs, qui ne sont plus des faits, qui sont de fait des illusions, qui sont des illusions, des mensonges, effectivement, ils nous polluent et ils sont une part extraordinaire de ce sentiment de dystopie. C'est-à-dire, c'est le cœur même de 1984, c'est le ministère de la vérité qui, au fond, est le ministère du mensonge pur et simple. C'est effectivement la Pravda. Donc, on retrouve ce monde-là au travers de Trump avec une nouvelle facette qui est aussi spectaculaire. C'est ça aussi qui est assez fou. Moi, je ne sais pas si vous connaissez cette série qui s'appelle The Boys, avec il y a une sorte de Superman qui s'appelle Le Protecteur, qui est absolument affreux. Les super-héros sont en quelque sorte tenus par une multinationale du marketing qui s'appelle la Vought International. Et il y a les Seth qui sont le summum de ces super-héros qui sont en quelque sorte des super-nazes, des super-menteurs, des personnages absolument affreux. Moi, quand j'ai vu la liste des ministres de Donald Trump, j'ai l'impression que c'était The Boys, quoi. Je veux dire, Elon Musk pour dynamiter le service public, Linda McMahon, qui est l'ancienne l'héritière du catch, WWF, à 83 ans, je crois, ou 84 ans, au ministère de l'Éducation, Robert F. Kennedy, qui n'y connaît rien en santé, qui était un anti-vax au ministère de la Santé. Je veux dire, c'est... Comment ne pas se dire, mais c'est de la fiction pure, quoi. Sauf que c'est le réel.
Et alors, on parlait de ça, et la communication, c'est aussi un enjeu majeur, évidemment, qui bouleverse tout. J'aimerais qu'on parle d'Elon Musk. Il ne cache pas ses sympathies pour l'extrême droite. Il soutient en ce moment l'AFD en Allemagne, ardemment. Il possède Twitter et le réseau Starlink. On a Internet partout dans le monde aujourd'hui, grâce à son réseau de satellites de basse altitude. François Bayrou a même annoncé aujourd'hui l'installation de 200 antennes relais à Mayotte. Au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de s'en remettre à un homme ?
De fait, je pense que les contre-pouvoirs, la faculté, donc notre, y compris d'ailleurs par Internet, de creuser d'autres types de réalités, reste très forte. En revanche, oui, on a le sentiment, quelque part, que des gens comme Elon Musk ou comme Jeff Bezos d'Amazon ont une puissance absolument terrifiante et extraordinaire. Et donc, on a aussi ce sentiment-là que lorsqu'on utilise, en quelque sorte, leurs outils, eh bien, on vit dans leur monde.
Oui, ça veut dire que l'État français n'est pas en mesure d'éviter Starlink.
Bah, il pourrait éviter Starlink. Après, la question, c'est est-ce que c'est la démonstration d'une dystopie ? Voilà, je ne suis pas certain. Je pense en revanche que c'est un danger absolument terrifiant pour la démocratie et pour notre capacité, notre puissance d'agir et notre capacité à construire nos propres mondes sans que ce soit des mondes qui nous soient imposés d'ailleurs. Elon Musk est un fan de science-fiction, mais de vieille science-fiction.
Mais c'est un grand fan de SF. Et justement, je voulais vous demander, de quoi s'est-il nourri ?
Alors, il s'est nourri de la science-fiction des années 50 et surtout de cet imaginaire de science-fiction positiviste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en février 2018, il avait envoyé une Tesla dans l'espace.
Oui.
Et dans cette Tesla, il y avait des disques durs avec notamment deux titres de science-fiction. Il y avait le 42, donc c'est le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Et puis il y avait Fondation d'Isaac Asimov. Mm-hmm. Hein, donc dans ce monde de Fondation, l'être humain est partout dans la galaxie, mais il n'y a que des êtres humains. La planète Trantor, c'est une planète urbaine, uniquement urbaine, il n'y a pas de nature. Bon, ça, effectivement, cette science-fiction-là l'a marqué. Après, puisqu'on a commencé l'émission avec Neuralink, la chose qui est assez drôle, c'est que lorsqu'en 2016 ou 2017, il a commencé à parler de Neuralink, c'est une société qui est censée créer un dispositif de connexion directe entre le cerveau et nos intelligences artificielles, il a parlé de Neural Lace. Or, le terme Neural Lace, c'est un terme qui vient d'une grande série de science-fiction de Yann M. Banks, qui s'appelle La Culture. La seule chose qui est assez drôle, c'est que dans La Culture de Yann M. Banks, il y a notamment un dialogue entre une IA, qui est un vaisseau spatial, et un humain, dans lequel le vaisseau spatial dit à l'humain, attendez, le lacet neuronal, ça a aussi été un instrument de torture terrifiant. C'est-à-dire que si on va à la source de certains types de science-fiction qui a inspiré Elon Musk, eh ben on en trouve une critique.
Et de quelle manière, plus généralement, la SF a-t-elle influencé notre monde ?
La science-fiction, de toute manière, c'est le « et si ». C'est « et si ». Donc on change les hypothèses, on entre dans un monde alternatif avec ses propres valeurs, mais avec des relations qui nous semblent crédibles. Donc je ne sais pas si la science-fiction a réellement influencé. La science-fiction, en tout cas, est un moyen de comprendre le monde, et je pense que le danger, c'est de l'apprendre au premier degré. Voilà, c'est pour moi la littérature philosophique par excellence de l'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un tas d'autrices et d'auteurs, de Katie Stewart à Audrey Plenaire, en passant par beaucoup d'autres, qui sont à l'antithèse de cet imaginaire de science-fiction de Elon Musk, qui sont dans des logiques au contraire totalement écologistes, inclusives, posant un tas de questions, sans aucune certitude.
Il y a une littérature SF positive, utopique.
En tout cas, qui ouvre des voies et qui est constituée de telle façon à nous redonner la main. C'est-à-dire que, bizarrement, on a le sentiment que ces êtres dystopiques venus de quelques futurs comme Elon Musk nous empêchent d'avoir la main, nous empêchent en quelque sorte de prendre la main sur notre devenir, alors qu'un tas d'autres auteurs de science-fiction, et notamment beaucoup de femmes aujourd'hui, nous ouvrent des devenirs, ce qui est quand même une bonne nouvelle et qui montre qu'il y a encore quelque espoir.
Donc il y a de l'espoir et on va finir là-dessus quand même, parce que ça fait du bien, on ne va pas terminer 2024 sur la dystopie.
Il y a de l'espoir et il y a des tas de choses qui se font dans le social, dans l'écologie sociale et solidaire, en écologie. Il y a des tas d'auteurs et d'autrices qui, par leur imaginaire, relient ce réel à cet autre futur qui, lui, et beaucoup moins dystopique.
Merci infiniment Ariel Kirou, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Philo-fiction, des imaginaires alternatifs pour la planète. C'est paru chez MF. Bonne soirée et bonne année à vous.
Merci et bonne année.
La suite, c'est le reportage d'un jour dans le monde, direction l'Australie toute cette semaine. Et vous allez croiser un animal à deux bosses que vous n'imaginiez pas vivre là-bas. Et pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche, qu'avez-vous déniché sous les radars ?
En Corée du Nord, le régime inaugure des hôtels en bord de mer et espère ramener des touristes.
Christian Chédeau, bonsoir dans le monde à 18h50.
Écoutez, on s'intéresse ce soir au défi sécuritaire que doit affronter le nouveau pouvoir en Syrie, une tâche titanesque.
Et Hélène au pays des 50 États, hi Hélène.
Bonsoir Christelle, cette semaine je vous emmène faire la fête à la Nouvelle-Orléans. mais loin des bars à touristes de Bourbon Street.
À tout de suite, restez avec nous pour l'instant, un moment de grâce et de douceur. Silencio, la rencontre de November Ultra et de Patrick Watson. Ils s'étaient vus pour la première fois ici à France Inter dans l'émission Côté Club de Laurent Goumard en avril 2022, et cette année, ça a donné ça.
I lost my voice 'cause I talked too loud, like an old friend that ain't hanging around. Oh, when there's quiet, well, I do my best, but I can't stop making this beat up in my head. But that's alright, I think I see the light. It's the middle of the night, you're all by yourself, begging, praying, chasing, looking for a reason. Won't you let it go? 'Cause you don't know. Then you take a bow, watch the quiet smile and say, yeah. I've been too many loves, I've been too many tries, too many times losing my mind. I said last night, I think you like me better since I lost my voice. Something about this choir. Come on, far la vida.
No sé si bien o mal, la vida sigue igual. No hay sentido en las palabras de la gente. La verdad, me cuesta respirar. A veces ya no quiero levantarme. Oír sin escuchar, no sé qué preguntar. Hubiera deseado que me escuches.
It was late last night, you know, I was laying in my bed. I just wanted to know, well, how. Take a break from yourself while you wander around. You close your eyes with a quiet
retour en Australie ce soir, rediffusion de ce deuxième épisode dans ce pays continent qui a la plus vaste population de dromadaires de la planète. En fait, ils ont été importés il y a 150 ans par les colons britanniques pour explorer l'intérieur désertique du pays. Le dromadaire, c'est pratique, ça supporte les très grosses chaleurs et ça boit peu. Et en l'absence de prédateurs naturels, eh bien, ils ont prospéré, se sont reproduits au point de devenir un énorme problème. Le dromadaire est désormais officiellement classé par parmi les espèces nuisibles par les autorités. Il y a régulièrement des opérations d'abattage. En marge, certains essaient de profiter des dromadaires pour développer le tourisme ou en faire tout simplement des steaks. Le reste, c'est Léo Roussel et Grégory Pless qui racontent.
C'est une ferme gigantesque en plein centre de l'Australie, deux fois plus grande que la Corse. Comptez ici environ 1 km carré de terrain par vache, ça semble énorme, mais c'est en fait indispensable au vu du climat et de l'environnement local. Peter Nunn est le gérant de Clifton Hill Station, la deuxième plus grande ferme de la planète.
On est au bord du désert de Simpson, du désert de Pierre de Sturt et du désert de Strelki. L'année dernière, on n'a eu que 10 mm de pluie. C'est pas évident, mais les bœufs grossissent bien ici. Il faut juste savoir s'adapter aux conditions.
Les conditions auxquelles fait référence Peter, elles ne sont pas seulement météorologiques. Pour s'assurer du bien-être de ses bêtes, il doit également composer avec une espèce considérée comme nuisible en Australie et qui pullule dans cette région désertique.
Il y a beaucoup de dromadaires qui viennent ici. L'année dernière, il y en a 600 qui ont débarqué. On gère la situation comme on peut. Ils détruisent les clôtures, ils pètent les abreuvoirs, ils causent quelques problèmes, mais ne nous inquiètent pas plus que ça.
Un désagrément pour les éleveurs, une menace pour la faune locale ainsi que pour certains sites sacrés aborigènes, prise très au sérieux par les plus hautes autorités. Et c'est un soulagement pour Peter puisque chaque année, le gouvernement fait abattre des centaines de dromadaires dans le désert. Mais Peter s'en charge aussi parfois lui-même.
Le gouvernement est venu plus tôt dans l'année, ils en ont tué 90, donc on ne s'en occupe pas tellement nous-mêmes, on n'a pas en tué autant. Moi-même, un amoureux des animaux, mais bon, parfois vous devez faire ce que vous avez à faire.
D'autres éleveurs n'ont pas autant de pudeur. Certains n'hésitent pas à se filmer puis à diffuser sur YouTube des vidéos où on les voit abattre des dromadaires par dizaines. Certaines, comme l'extrait que vous allez entendre, dépassent même le million de vues.
Got a fresh-born baby just there.
On a un nouveau-né juste là.
They've never seen people before.
Ces dromadaires n'ont sûrement jamais vu d'humains avant.
Probably never want to again.
Et ne voudront sans doute plus jamais en voir.
Hello, camel.
Coucou dromadaire.
Hello.
Bonjour.
Avec une population estimée à plus d'un million de spécimens, les dromadaires en Australie sont aujourd'hui perçus comme une menace. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a moins de 100 ans, ils étaient encore régulièrement utilisés pour acheminer le courrier et des marchandises dans les zones les plus reculées du pays. Tim Moore est historien. Il a écrit un livre sur cet aspect méconnu de l'histoire de son pays.
La plupart des explorateurs qui ont parcouru l'Australie étaient accompagnés de dromadaires. Parce qu'ils peuvent parcourir de longues distances, ils boivent très peu d'eau et peuvent trouver seuls de quoi se nourrir. Ils étaient donc parfaitement adaptés à ce pays. Je ne pense pas qu'on aurait pu aller aussi loin sans eux à cette époque.
Et malgré leur mauvaise réputation, certains continuent d'entretenir cet héritage. C'est le cas par exemple de Ryan McMillan, qui organise des randonnées en dromadaire à travers la chaîne de Flinders. Il se prépare d'ailleurs à partir 15 jours dans les montagnes avec un groupe de touristes.
On est en train de charger le dos des dromadaires. Personne ne monte sur leur dos, tout le monde marche, mais ils transportent tout notre matériel, notre nourriture, l'eau, nos sacs de couchage. On n'a pas de voiture, tout ce qu'on emmène est porté par les dromadaires. On n'est que deux à proposer ces excursions avec cette méthode traditionnelle de transport à dos de dromadaire. C'est quelque chose qui se perd, mais une manière incroyable de parcourir l'outback australien.
Pour Ryan, les dromadaires ne sont pas des nuisibles, mais au contraire, une formidable ressource, largement inexploitée, et qui pourrait s'avérer crucial à l'avenir.
On a un animal parfaitement conçu pour résister au réchauffement climatique. Dans le désert, il n'y a rien d'autre qui survit. Il y a d'autres pays dans le monde qui s'appuient dessus. C'est une ressource qu'on gaspille aujourd'hui.
Si le marché de la viande de dromadaire est embryonnaire et essentiellement tourné vers l'export, celui du lait présente un très fort potentiel. Plus riche en protéines et plus digeste que le lait de vache, il gagne en popularité à l'international. Pour l'Australie, l'espèce nuisible d'hier pourrait bien devenir l'opportunité de demain. Ainsi, l'an dernier, un producteur de lait de dromadaire a reçu un coup de pouce de 2,5 millions d'euros pour développer son activité.
Grégory Pless et Léo Roussel pour le reportage. À demain pour une nouvelle aventure australienne. L'actualité passée sous les radars en ce dernier jour de l'année est récupérée au vol par Kevin Dufraîche.
Se está haciendo una investigación.
Nous sommes d'abord au Mexique où une affiche fait beaucoup parler.
Oui, ça se passe à Coalcoman, un peu moins de 20 000 habitants à l'ouest de Mexico. Lors d'une distribution de jouets organisée pour Noël par la mairie, une grande affiche est déployée, on peut y lire. Les enfants de Coalcoman remercient M. Nemesio Oseguera pour son noble geste. Merci pour vos cadeaux. Sauf que ce M. Oseguera, il est connu sous le nom d'El Mencho et c'est l'un des plus gros trafiquants de drogue du pays. Voilà qui fait scandale donc depuis plusieurs jours au Mexique. Une affaire qui est remontée jusqu'à la présidente Claudia Sheinbaum. Lors de sa conférence de presse quotidienne hier, elle a évidemment condamné et annoncé qu'une enquête est en cours pour savoir si le maire de Coalcoman a des liens avec le cartel d'El Mencho. La corruption des élus par les cartels est loin d'être nouvelle au Mexique, mais les manifestations publiques de soutien aux trafiquants sont rares parce que sévèrement punies par la loi.
Kim Jong-un, 북한 노동당 총비서가 새로운
Cette fois-ci en Corée du Nord, au bord de la mer.
Oui, les médias d'État ont publié aujourd'hui les images d'un Kim Jong-un tout sourire aux côtés de sa fille pressentie pour lui succéder sur la plage de Wonsan. C'est à 200 km à l'est de la capitale Pyongyang. Le dictateur était sur place pour révéler au grand public un grand complexe touristique balnéaire. On l'a vu se promener au milieu d'hôtels flambant neufs et pour l'instant complètement vides. Je cite KCNA, l'agence de presse nord-coréenne, se régalant les yeux d'un sourire éclatant. La plume de la propagande de l'un des pires régimes de la planète est toujours inspirée. Au-delà de ça, Kim veut, avec ce projet, montrer un signe d'ouverture, parlant d'une première grosse étape pour développer le tourisme en Corée du Nord, un pays quasi intégralement fermé, encore plus depuis le Covid. Même avant 2020, il y avait environ 5000 touristes à peine, des touristes occidentaux par an.
C'est ok, c'est juste le sprinkler qui va.
Enfin, nous sommes aux États-Unis où leur année se termine par un divorce.
Oui, Angelina Jolie et Brad Pitt ont signé hier une convention de divorce. C'est le magazine américain People qui révèle l'information confirmée par l'avocat de l'actrice de 49 ans. Et ce n'est pas une petite chose, hein, d'abord parce que Brangelina, comme oui. On les appelait, eh bien, c'était le couple star d'Hollywood au milieu des années 2000, sans doute l'un des plus connus de la planète. Et ensuite parce que cette séparation officielle arrive 8 ans après qu'Angelina Jolie a demandé le divorce, 8 ans de bataille judiciaire, suivie et commentée par les tabloïds, des conflits à propos de la garde de leurs 6 enfants d'abord, puis au sujet de leur patrimoine, notamment la vente d'un vignoble dans le sud de la France. Brad Pitt, aujourd'hui âgé de 61 ans, a aussi été accusé par son ex-compagne de l'avoir violenté, ainsi que deux de leurs enfants lors d'un voyage en jet privé, c'était en 2016, l'année où elle a demandé le divorce. Les détails de l'accord entre les deux stars du cinéma ne sont pas connu, du moins pas pour le moment.
On imagine qu'il y a plusieurs zéros à la clé.
Et c'est pour ça que ça a pris du temps, oui.
Voilà. Merci Kevin, on vous laisse partir et on reste aux États-Unis. Un petit tour par New York City avec Groovin'. C'est l'histoire d'un dimanche tranquille avec la personne qu'on aime. C'est pas du tout pour les bronzés. Voilà. Une des 500 chansons qui ont façonné le rock'n'roll selon le Rock'n'Roll Hall of Fame, The Young Rascals sur Inter. Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's better. The world is ours whenever we're together. There ain't a place I like to be instead of moving. En 1967, bon début de soirée avec nous sur France Inter.
How dare you?
Christelle Rebière.
Le 18-20.
Et c'est l'heure de retrouver le monde à 18h50 pour cette dernière chronique de l'année, direction la Syrie. Après le renversement du régime de Bachar el-Assad, Christian Chesneau, les nouveaux maîtres du pays sont confrontés à d'immenses défis. Celui de la sécurité est assez vertigineux.
Oui Christelle, parce que passé l'euphorie de la chute de la Syrie des Assad, tout est à reconstruire, à commencer par l'armée et les services de sécurité. L'homme fort du pays, Ahmed Ashera, de son nom de guerre, Abou Mohamed el-Jolani, a commencé à placer ses proches au poste clé. Son ancien chef de la branche militaire d'Ayat Tahrir al-Sham, le général Abou Kassra, vient d'être nommé ministre de la Défense, tandis qu'un de ses adjoints, Anas Rattas, prend les rênes des services de renseignement. Pour eux, le premier objectif est de purger l'institution militaire et les services des reliquats des pro-Assad, avec deux difficultés. L'armée syrienne a été largement détruite par Israël, qui a mené plusieurs centaines de bombardements contre ces bases. Et puis, les loyalistes sont entrés en clandestinité, notamment dans la montagne Alaouite. Des incidents meurtriers ont déjà eu lieu quand le nouveau pouvoir a voulu les interpeller. Bref, une Syrie sans armée, avec un appareil sécuritaire désorganisé, est forcément vulnérable.
Oui, d'autant plus que la guerre continue contre les Kurdes dans l'est du pays.
Oui, il faut rappeler que le nouveau pouvoir syrien ne contrôle qu'un tiers du territoire, plus de 20% est aux mains des Kurdes, qui subissent les attaques des milices syriennes pro-turques, téléguidées par Ankara, avec l'objectif de reprendre tout leur territoire qu'ils administrent de manière autonome. Le nouveau pouvoir à Damas a déjà clairement annoncé la couleur. La Syrie post-Assad ne sera pas fédérale comme l'Irak voisin, et les Kurdes devront déposer les armes et intégrer la nouvelle armée nationale. Or, instruits par l'histoire, les Peshmerga n'ont pas l'intention de renoncer à ce qu'ils ont conquis sur le terrain et de baisser la garde.
Enfin, dernier facteur de fragilité sécuritaire, la Syrie est un pays sous influence étrangère.
Oui, et ce n'est pas le moindre des défis des nouveaux maîtres de Damas. La souveraineté syrienne a volé en éclats. Alors, c'était déjà le cas sous Bachar el-Assad. Au nord, la Turquie occupe une bande frontalière qu'elle souhaite agrandir. Au sud, Israël s'est emparé de la zone tampon démilitarisée du plateau du Golan que l'État hébreu occupe depuis 67. Et puis, dans le centre et l'est, Daesh et Al-Qaïda en guerre contre leur ancien frère d'armes, Ahmed Ashera, pourraient profiter du vide sécuritaire pour déstabiliser le nouveau pouvoir à Damas par une campagne d'attentats. D'où l'inquiétude des Occidentaux et en particulier des États-Unis et de la France qui ont encore des forces spéciales dans l'est de la Syrie et qui continuent à bombarder les djihadistes. Paris vient d'annoncer une frappe de rafales et de drones contre deux positions de Daesh. Et puis, il ne faut pas oublier l'Iran, l'un des grands perdants de la chute de Bachar, dont on connaît le pouvoir de nuisance. Le guide suprême Ali Khamenei a prédit l'émergence en Syrie d'un groupe fort et honorable de résistance, selon son expression. Compte tenu de sa longue empreinte dans le pays, Téhéran a la capacité de déstabiliser le nouveau pouvoir, si cela sert ses intérêts. Autant dire que la Syrie est aujourd'hui un pays ouvert aux quatre vents, avec tous les risques sécuritaires d'une telle situation.
Et tous les scénarios sont encore possibles. Merci Christian Chesneau. C'est un pays, cette fois, qui sera scruté comme jamais en 2025. Les États-Unis, voici Hélène et les 50 États.
France Inter.
We are Americans.
Ce soir, Hélène, vous nous emmenez faire la fête à la Nouvelle-Orléans.
Oui, avec Élise, une prof de français qui a débarqué ici en 2016, peu de temps avant la première élection de Donald Trump. La Nouvelle-Orléans fait partie des endroits où les Américains adorent venir fêter le 31 décembre, après New York, bien entendu, qui reste la ville où passer le réveillon. Nola, de son petit nom, berceau du jazz, ville de naissance de Louis Armstrong, ravagée par l'ouragan Katrina en 2005, et dont le French Quarter est un peu l'épicentre. Pour beaucoup de touristes américains, la ville se résume à ce quartier, et plus particulièrement à une rue, Bourbon Street. C'est là qu'ils vont célébrer le passage en 2025 ce soir. Je voulais vous faire vivre l'ambiance festive ici, mais j'ai vite déchanté. Et c'est pas faute d'avoir été prévenue par une copine. Si tu veux voir Bourbon Street, m'avait-elle dit, surtout n'y va pas le soir, c'est Disneyland. J'ai rapidement compris pourquoi. Les immeubles au balcon en fer forgé ont un charme dingue, mais sont totalement gâchés par une ambiance proche de celle de Las Vegas, entre les percussionnistes qui tapent sur des seaux en plastique, les bars qui diffusent leur musique à fond, les groupes live et les enterrements de vie de jeunes filles. La cacophonie générale ne rend pas du tout hommage à la tradition musicale de la ville.
Allons-y, just a closer walk.
Heureusement, j'ai fait la connaissance d'Élise.
Là, c'est comme ça que les musiciens apprennent à jouer la musique.
enseignante en maternelle la semaine et guide touristique le week-end. Élise est arrivée à la Nouvelle-Orléans il y a 9 ans, mais sincèrement, on a l'impression qu'elle est née ici. Elle-même dit en être complètement tombée amoureuse dès la descente de l'avion.
Et j'ai pourtant ma famille en France, j'ai deux garçons magnifiques, j'ai mes parents, mais quand je m'éloigne de la Nouvelle-Orléans, je suis en manque. Donc si je vais en France, par exemple, j'ai la série Trémée sur mon ordinateur et je la regarde parce que j'ai l'impression d'être à la maison de nouveau. J'ai besoin de ma dose de Nouvelle-Orléans.
Trémée, c'est le nom d'une série, mais surtout celui du quartier doublement emblématique de la Nouvelle-Orléans, quartier afro-américain le plus ancien des États-Unis et lieu où est né le jazz. Un endroit qu'Élise adore, elle connaît son histoire, ses habitants, ses traditions. La quinquagénaire est intarissable sur les mardis gras indiens et les secondes lignes, ces cortèges festifs qui suivent en fanfare la famille du défunt lors d'un enterrement.
Comment ça se passe, les funérailles ici ?
Même s'il y a des musiciens ou des gens qui décèdent, qui ne sont pas physiquement à la Nouvelle-Orléans, on va quand même faire une célébration. Il faut les emmener à la maison dignement. Et à partir de là, ont découlé d'autres Second Line qui sont organisées par des Social Aids and Pleasure Clubs, aide sociale, plaisir. Donc, on aide les gens, on distribue des jouets pour Noël, on distribue la nourriture aux homeless quand on fait partie de ces clubs dans les quartiers afro-américains. Et chaque Social Aids and Pleasure Club organise sa grosse sortie une fois dans l'année. Comme il y en a plus de 40 dans la Nouvelle-Orléans, tous les dimanches, on peut danser pendant 4 heures dans les rues en musique, derrière un brass band ou la musique live. C'est pas quelque chose qu'on regarde passer, c'est quelque chose qu'il faut vivre.
Allons-y.
Car ça tombe bien, c'est l'heure de la dernière Second Line de l'année. Et dès les premières notes de la fanfare, la foule amassée se met à danser. Des femmes habillées de tailleurs bordeaux avec un col en fourrure blanche sortent une par une d'une maison, un grand verre d'alcool à la main. Ce sont les membres du social club, les Lady Rollers, les organisatrices de cette Second Line.
Et là, c'est vraiment la fête. Tout le monde danse, quel que soit l'âge, quelle que soit la corpulence. Un petit gamin de 4 ans va faire un battle de footwork, de jeu de jambes et de mouvements de danse avec son arrière-grand-père sur le côté. Et vraiment pas de barrière intergénérationnelle, tout le monde fait la fête aussi.
La parade se met en route. Élise me glisse à l'oreille qu'il y a un peu plus de personnes blanches que d'habitude. C'est parce que le rassemblement débute dans un quartier chic de la Nouvelle-Orléans, peu habitué à ce genre de défilé. Fascinée par l'énergie de la foule, j'en perds Élise, mais je me trouve une copine avec laquelle je partage quelques déhanchés. Vous êtes de la Nouvelle-Orléans ?
Je suis née et j'ai grandi ici. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Pour m'amuser, me faire plaisir. C'est ce que nous faisons à la Nouvelle-Orléans tous les dimanches. Tu viens et tu t'amuses. Bonne année les gens !
Je finis par apercevoir de loin l'enseignante. Heureusement, elle porte un manteau en fourrure bleue bien flashy.
Alors elle est comment cette Second Line ?
Ah là là, c'est parfait, il fait beau, les gens sont heureux, tout le monde est relax. Les gens viennent vraiment extérioriser toutes les misères de la semaine. Ils viennent danser le dimanche après-midi et puis après tout va bien. Et c'est la dernière de l'année en plus. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on lui souhaite pour 2025 ?
Eh ben encore plus de Second Line et de musique. C'est quand même mieux qu'un feu d'artifice.